Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce nouvel épisode, c'est Lucie Cosmala que nous recevons. Lucie est journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle nous parle aujourd'hui de ce déclic qu'elle a eu, de se lancer comme journaliste, mais pas que, dans ce pan particulier de la littérature, et donc de faire de son quotidien des missions de review, d'organisation de divers événements et de recommandations autour de ce genre littéraire. Elle nous déroule son parcours et ce qui l'a mené à vouloir nous faire découvrir ce monde de petits à nous, les plus grands. Et aujourd'hui, dans Le Déclic, nous recevons Lucie Cosmala. Comment vas-tu, Lucie ? Ça fait plaisir de te voir.
Coucou Juliette, ça va très très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans mon petit appartement avec Romy. Voilà, je te présente.
Bonjour Romy.
Mon petit chat.
Donc Romy qui fera son déclic juste après. Hein. Vous patientez, madame, s'il vous plaît.
Beaucoup de choses à raconter, Romy.
Évidemment.
Plus que moi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un prétexte si t'es là, juste pour pouvoir ensuite enregistrer un podcast avec Romy, j'ai bien compris.
Alors je précise que Romy étant aussi un prénom pour enfants, alors là il s'agit d'un chat. Hein.
Effectivement. Mais c'est un peu mon enfant aussi, Juliette.
Mais bien sûr, évidemment. Alors Lucie, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que comme tu dois le savoir, dans chaque épisode du Déclic, on vient un peu sur l'avant-déclic de notre invité, afin d'en savoir un petit peu plus sur son parcours et ce qui l'a amené vers ce changement de vie. Qui es-tu, Lucie ? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il te plaît ?
Qui suis-je ? Oh, voilà une très bonne question. Donc je m'appelle Lucie Cosmala. J'ai tout un tas de casquettes différentes dans ma vie. Je suis une espèce de...
Au sens propre, comme au figuré.
De troubadour. Oui, exactement. Je pourrais te montrer ma collection juste après. Je suis une espèce de troubadour qui fait tout un tas de choses et qui suit vraiment ses envies depuis plusieurs années. Et on va dire qu'en ce moment-là, à l'instant T, au moment où je te parle... Alors je suis spécialiste en littérature jeunesse, donc on entend littérature jeunesse, en tout cas dans mon cas, les livres qu'on offre à des enfants de 0 jusqu'à 25 ans, donc je vais quand même jusqu'aux jeunes adultes.
Ah d'accord, on en reviendra parce qu'effectivement moi je ne savais pas que littérature jeunesse ça comprenait aussi littérature des jeunes adultes comme tu
exactement,
disais.
Exactement, la littérature young adult comme on l'appelle, et tu pourras constater que j'ai 2-3 ouvrages de ce genre-là chez moi. Donc dans le cadre de cette spécialité, je suis amenée à avoir tout un tas d'activités très très différentes qui vont du journalisme à de la communication comme être community manager, être programmatrice dans des salons du livre. J'ai aussi d'autres activités plus bénévoles où je suis jurée dans des prix littéraires, etc. Donc tout un tas de choses. Ah, je commence à avoir 2-3 trucs pas mal sur mon CV, j'avoue. voilà, je fais de la rédaction, etc. Et puis, comme j'aime bien dire, je suis un petit côté Batman, donc j'ai ma vie de jour et ma vie de nuit. Donc la vie de jour, la littérature jeunesse. Et la vie de nuit, quand le Covid ne nous embête pas avec ses restrictions terribles et tristes, je suis aussi DJ.
Et justement, on va en parler. Alors, vous l'avez entendu pour le podcast de Jade, mes chers auditeurs, c'est qu'on va faire un podcast comme celui de Jade en deux parties, puisqu'on va faire un podcast bonus. Lucie ayant double casquette et deux casquettes très différentes, on a décidé de faire le podcast principal sur son déclic. Alors du coup, je spoil, sur son déclic de se mettre à la littérature jeunesse et d'en faire son métier, et ensuite de se former au DJing, puisque c'est ce que tu as fait, je spoil aussi, c'est un tournant que tu as pris pendant en fait ta carrière de journaliste, puisque j'étais là au moment où tu as commencé à te former à tout ça. Donc je vous inviterai à écouter son déclic bonus qui paraîtra soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je ne sais pas, ça dépendra de la magie du calendrier des podcasts.
Quel suspense, tu sais tenir en haleine tes auditeurs,
n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études? On va se concentrer là pour l'instant sur ton déclic sur la littérature jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait comme études pour te retrouver, tout d'abord, non, qu'est-ce que tu as fait comme études de façon générique?
Alors, de façon générique, si on commence depuis le bac, j'ai fait un bac littéraire, car j'ai toujours eu la fibre littéraire. Donc, c'était très naturel pour moi de choisir cette filière-là au moment du lycée. Donc, j'ai fait un bac littéraire. Et en fait, si tu veux, moi, depuis très longtemps, depuis la troisième, j'ai eu ce projet professionnel très, très précis. qui était celui d'être journaliste pour enfants.
D'accord.
Donc
c'était déjà là
D'une certaine façon, c'était déjà là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, en regardant ma vie, en me disant « Mais Lucie, tu es devenue journaliste pour enfants, en fait. » Donc c'est incroyable. Mais ouais, très très tôt, en fait, j'ai eu envie de faire ça. Ça a été un cheminement intérieur qui m'a menée à avoir envie d'être attachée de presse, puis d'être journaliste en général, puis d'être prof des écoles, puis d'être auxiliaire de puériculture, etc., etc. Et c'est au moment du lycée où je me suis dit « Il n'y a pas une façon de mêler et mon attrait pour le journalisme et mon attrait pour l'enfance. » Et en plus, j'ai été une grande, grande lectrice de presse jeunesse. D'accord. Quand j'étais jeune. Type journal de Mickey, oui. Minimag, j'aime lire tous ces trucs.
Je me rappelle aussi de Le Petit Quotidien.
Le Petit Quotidien, Les Petites Sorcières, enfin tout ça. Pour moi, ça a vraiment bercé mon
Minimag.
Enfance. Minimag.
Magnifique saut de Romy. Alors là, 10 sur 10, aucune éclaboussure, magnifique, bravo.
Écoutez, je suis très fière de l'entraînement que je lui fais suivre depuis sa tendre enfance.
Et du coup, en fait, donc, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Tu as fait du journalisme, du coup?
Alors non, je n'ai pas fait de journalisme. En fait, donc, j'avais ce projet professionnel assez précis d'être journaliste pour enfants, mais j'avais un peu envie qu'on prenne au sérieux. Parce que, en fait, quand j'étais en terminale, j'avais appelé le directeur de la rédaction de Distaché de presse en lui disant « Bonjour, j'aimerais bien un jour faire votre métier, comment on fait ?»
Et, génial.
Ouais, j'étais déjà un peu...
le culot.
Quand je veux un truc, j'y vais, quoi. Et j'avais galéré en plus à l'avoir au téléphone, mais j'avais fini par réussir à l'avoir. Il m'avait dit « Oui, il faut faire Sciences Po, etc. » Moi, j'étais
« Oh, dis
oh, la flemme !» Oh non, franchement, la flemme. Donc du coup, je me suis dit « Ok. » Vu qu'il me prévient quand même, il m'alerte sur le fait qu'avec ce projet professionnel, on peut ne pas me prendre au sérieux. Bah, j'ai envie en fait que les gens me prennent au sérieux. Et donc en terminale, mon prof de philo m'avait parlé de la classe préparatoire, donc Hippocampe. Et il m'avait dit « Ah mais Lucie, moi je vous vois bien dans une classe prépa, alors pas forcément les grandes prépas prestigieuses, etc. Une plus familiale », il m'avait dit. Donc je m'étais un peu renseignée sur les prépas.
Familiale,
ouais, on va dire ça. En tout cas, pas les prépas qui forment des bêtes de concours.
Oui, pour faire l'ENS, etc.
Exactement. Plus, en fait, il m'a vendu cette prépa comme une espèce de formation sur tout un tas de matières différentes.
De métiers plus littéraires, plus journalistiques.
En fait, la prépa, c'est pluridisciplinaire, donc ça permettait aussi de trouver un petit peu sa voie, en quelque sorte. Et puis, il y avait une rigueur, etc. Donc, je me suis dit, ok, c'est parti. Donc, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire, en sachant que... En troisième année de licence de lettres modernes, dans la fac à côté de chez moi, il y avait une option littérature jeunesse.
D'accord. Ah oui.
Je savais que j'allais faire 2 ans de prépa et que j'allais ensuite aller en licence. Parce que la littérature jeunesse, moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais je me disais, bon, littérature jeunesse, presse jeunesse.
Oui.
Il y a, voilà, y a une affinité.
C'est plutôt corrélé, ouais.
Voilà. Donc je suis allée... j'ai fait mes 2 ans de prépa. J'ai fait mon année de fac. J'ai découvert la littérature jeunesse. Le déclic. Et ensuite, j'ai fait un master de littérature jeunesse. Du coup,
comment tu as commencé ta carrière de journaliste? Est-ce que tu as tout de suite été dans la littérature jeunesse ou
Alors, du coup, vu que j'ai fait un master de littérature jeunesse, j'ai fait ce master en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire. Je me suis dit, c'est génial les livres, c'est vraiment trop bien. Je savais pas qu'en fait, les livres pour enfants, ça pouvait être aussi intelligent, aussi mignon, etc. Ouais. Je me suis dit, je veux travailler là-dedans, vraiment, je veux travailler là-dedans, mais je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'ai le domaine, mais j'ai pas le métier.
Et d'ailleurs, question qui est à part de ce qu'on avait listé avec Sophie, écrire des livres pour enfants, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit ?
Ouais, bien sûr. Bah là, ça me travaille de plus en plus. Hein, ça c'est sûr. Non, je teste des trucs, On verra. Mm-hmm. Tu vois, je vais avoir 30 ans dans un mois. Ça va être l'objectif prochaine décennie.
Du niveau 3.
Exactement, le niveau 3. On va essayer de faire un petit quelque chose.
Ouais. Alors du coup, on arrive très vite à ton déclic, hein, de toute façon, puisque toi, ça a été assez instantané. Donc tu disais que tu as toujours été intéressée par la littérature jeunesse. Mais... Est-ce que tu te rappelles d'où ça vient? Est-ce que petite, c'est des livres que tu lâchais pas? En fait, c'est venu par la presse, mais effectivement, quand est-ce que tu t'es dit que la littérature jeunesse pouvait être aussi une carrière? Qu'a été ce petit déclic de la littérature en particulier?
Alors déjà, pour te répondre, non, j'étais pas forcément une grande lectrice.
D'accord.
En fait. Il y a ce qu'on appelle les albums jeunesse, qui sont donc les livres illustrés. Moi, j'en ai eu très peu dans mon enfance. Oh, j'ai eu un Martine, j'ai eu un Caroline. Et après, j'avais beaucoup de contes, ou j'avais beaucoup de... Je sais pas si t'as eu ça quand t'étais jeune. Des trucs des éditions Atlas avec Carlos qui te raconte le petit pousset avec ta cassette et tout. Moi, c'était ça, en fait.
Ma mère est bibliothécaire. Donc, moi, les bouquins, ça, j'étais une grande lectrice. Moi, je fais partie des gens qui étaient des énormes lecteurs en tant qu'enfant et qui maintenant ne touchent plus un bouquin. C'est un enfer, j'essaie de m'y remettre. Mais genre, moi, j'ai lu Shakespeare à 13 ans, tu vois.
Ah oui,
donc, j'étais... Mais là,
mais t'as déjà tout lu en fait, c'est pour ça. T'as tout lu trop tôt, du coup.
Par contre, j'avais tous les Juliette, les Martine, les machins, mais j'avais des bouquins encore chez mes parents. Enfin, il y a une bibliothèque incroyable, quoi.
Bah moi, pas trop. À l'enfance, quand même, j'ai eu. Enfin, moi, Harry Potter a fait partie quand même des livres qui ont été très très importants pour moi. Enfin, ça a été une lecture très très importante dans ma vie et qui me marquera, je pense, pour toujours, quoi. Et après, donc quand j'étais enfant, oui, moi je lisais l'été avec papa maman qui achetait des livres, donc du coup avec mon frère on achetait aussi des livres, et après avoir piqué une petite tête dans la piscine, on prenait ensuite notre bouquin. Mais j'étais pas forcément une énorme lectrice quand j'étais jeune, et je connaissais pas forcément bien la littérature jeunesse, d'autant plus que, tu vois, je te parlais des livres pour adolescents. Moi, par exemple, au moment où tout le monde lisait Twilight, j'entends vaguement parler de Twilight, mais je l'ai jamais eu entre les mains.
Moi non plus.
Quatre filles et un jean, pareil. Je voyais les nanas mes potes se le refiler pour le lire. Moi, je l'ai jamais eu entre les mains non plus. Donc, je suis un peu passée. Hunger Games, pareil. Je suis passée entre les filets de tout ça.
Non plus Hunger Games, ouais, mais Quatre filles et un jean, par contre, ouais, je l'ai beaucoup lu.
Donc. Bon, je lisais, mais pas non plus... Enfin, je pensais pas forcément... Ça m'avait pas traversé l'esprit de me dire « Ok, ça peut être un métier. Enfin, » J'imaginais... Enfin, j'avais des livres, mais j'imaginais pas qu'il y avait des gens derrière pour les faire et qu'il y avait tout un tas de métiers qui étaient derrière. Mais mon vrai déclic, et je m'en souviens vraiment de façon très, très, très précise, bah, c'est justement quand je suis arrivée en troisième année de licence de lettres modernes. Premier cours de littérature jeunesse, donc cette fameuse matière où je me suis dit « Ouais, bah, ça ressemble vaguement à de la presse jeunesse, donc ça va m'intéresser. » C'était une matière qui a été proposée le temps d'un semestre dans le cadre d'un cursus. En gros, en lettres modernes, il fallait que tu choisisses des espèces de cursus. Et donc moi, j'avais choisi le cursus pour être professeur des écoles.
D'accord.
Sans forcément, en me disant « Bon, peut-être que je serai professeur des écoles », mais ce n'était pas l'objectif. Mais il y avait ce cours de littérature jeunesse pour permettre justement aux futures enseignantes de commencer à se former là-dessus. Donc moi, j'arrive. Alors, il faut savoir que je sortais de 2 ans de prépa, donc niveau snobisme, on était pas mal. On était vraiment même très, 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 très bien. Et donc, j'arrive dans ce cours en me disant « Ah ouais, on va voir ce que ça raconte. » Et donc, il y a cette enseignante qui arrive et qui commence à nous présenter un livre qui était un album qui s'appelle « Loulou » de Grégoire Solotareff, édité à l'École des loisirs.
Et ça me dit quelque chose, c'est avec un petit loup, non ?
C'est avec un petit loup, ouais. C'est une couverture sur fond rouge.
Je me rappelle très bien, ouais.
Et elle commence à nous présenter ce livre et en fait, elle commence à l'analyser de la même façon
qu'on analyse
un texte littéraire classique. Okay. Donc voilà, mon cerveau, il fait trois sauts périlleux, quoi. Je me dis, ok les gars, attendez. On est face à un livre extrêmement mignon avec des petits loups et des petits lapins, avec des dessins. Et en fait, vous êtes en train de me dire qu'il y a une profondeur, il y a une richesse, il y a du sens dans ces livres-là et qu'on peut aller creuser et trouver des choses, une espèce de richesse dans des livres avec des petits loups qui parlent. Attendez, mais c'est incroyable. Et j'ai été, mais...
Je sais pas.
Ah ouais, happée. Et je me suis dit, ok. En fait, ça, c'est intelligent et c'est mignon. C'est ça que je veux, en fait. C'est ça.
Ah, c'est génial.
C'est ça que je veux. Et vraiment, je sais pas, je la revois, tu vois. J'ai encore cette image de cette enseignante debout face à nous. Moi, je la regarde et elle est en train de passer chaque page en disant, voilà, les contrastes de couleurs, ta, ta, ta. Parce qu'il y avait ça aussi. Ouais. Parce que moi, j'étais habituée à analyser des mots.
Oui.
Et là, d'un coup, on me montrait que les images aussi pouvaient avoir du sens. Et voilà, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez créatif, qui a toujours eu un attrait quand même pour ce qui est joli. J'ai créé des forums de création graphique quand j'étais jeune pour faire des petits trucs sur Photoshop, machin. Donc, j'ai toujours aimé le côté joli. Et ouais, ça m'a complètement bouleversée de me dire, ah ouais, donc... Il y a des livres qui sont mignons et qui peuvent être porteurs de sens. Et ça veut dire qu'il y a des métiers qui gravitent autour de ce genre littéraire-là. Ça résonne vraiment beaucoup en moi. C'est ça que je veux faire, quoi. Et j'ai eu, en plus, coup de bol. Parfois, tu as les planètes qui s'alignent. Mais au moment où moi je finissais ma licence, il y avait donc un master de littérature jeunesse qui s'ouvrait à Cergy Pontoise et Antony, ce qui restait un petit peu loin de chez moi, mais pas non plus aussi loin que Lille, parce que avant, oui. Bon, maintenant ça s'est un peu développé, mais avant tu avais des masters à Lille, au Mans par correspondance, à Tours, etc. etc. Enfin, t'avais rien vraiment en région parisienne. Ouais. Tu pouvais aller, enfin, moi au début j'avais commencé à m'inscrire à Paris 7. Parce qu'il y avait une directrice de mémoire que je pouvais avoir qui était spécialiste des comptes, etc. Donc il y avait des espèces de
portes, ouais, mais rien de très précis. Ouais.
Voilà, que là, on me dit, ah bah regarde, il y a un master de littérature jeunesse qui s'ouvre.
Bah là, c'est vraiment pleine qui s'aligne, effectivement.
Complètement, complètement, complètement. Donc, ouais, énorme... énorme bouleversement, et c'est ce qui a vraiment déterminé, en fait, tout le reste. Merci.
C'est ouf.
Merci, Madame Estève. Si vous, si vous m'écoutez, c'est grâce à vous.
Et comment t'as amorcé ta carrière dans ce genre ? C'est-à-dire, est-ce que t'es arrivée dans des rédactions et où t'as commencé des piges ? Est-ce que t'as été, je sais pas, démarchée Mon Petit Quotidien, ce genre de choses ?
Alors non. En fait, donc le master de littérature jeunesse que j'ai fait, il avait la particularité d'être surtout proposé aux enseignants. Et
d'accord.
À l'époque, les enseignants n'avaient pas cours le mercredi, ce qui fait que tous les cours
étaient le mercredi.
Étaient uniquement le mercredi. Donc quand tu n'étais pas enseignant, tu avais beaucoup de temps libre. Et du coup, comme je te disais, au moment où moi, je me dis « Ok, en fait, je veux bosser en littérature jeunesse », je ne savais pas du tout. Moi, je ne connaissais pas les métiers de l'édition. Je ne connaissais rien.
Ouais.
Rien du tout. On ne sait pas des trucs dont on te parle quand t'es au lycée, à l'orientation, etc. Un éditeur, tu ne sais pas ce que c'est.
Ah non, c'est vrai, mais c'est pas, même pour certains, c'est encore flou maintenant. Quoi. C'est vrai que c'est tous les métiers du livre ou même beaucoup de métiers culturels en fait, qui gravitent autour de nous sans qu'on le sache. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. En fait,
Exactement. Du coup, moi, je dis, en fait, je vais essayer de profiter du fait de n'avoir qu'une journée de cours par semaine pour faire un maximum de stages et accumuler un maximum d'expérience et tester des trucs, en fait. Donc, j'ai fait plein de stages. J'ai commencé, mon premier stage, c'était au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, où je faisais juste de l'accueil. J'étais, oh, en fait, c'est cool. Ça m'a permis de rencontrer des éditeurs, oui. Donc de commencer à voir quel était le métier d'éditeur. Ensuite, j'ai fait de la librairie pendant 9 mois. J'ai bossé en librairie à Versailles, spécialisée jeunesse, qui a été une expérience clé pour moi, parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert la littérature ado.
D'accord.
C'est à ce moment-là que donc une libraire qui venait d'être embauchée, on est quasiment arrivés en même temps, moi en tant que principalement manutentionnaire, hein, juste j'ouvrais les cartons, etc. Et elle, en tant que vraiment responsable de la boutique, elle m'a dit, ok, toi, je vais un peu m'occuper de toi, parce que je vois que ça t'intéresse. Et donc c'est elle qui m'a vraiment mis entre les mains tout un tas de livres différents, parce que moi, les livres que j'avais l'habitude de manipuler dans le cadre de mes études, c'était un peu toujours les mêmes éditeurs, un peu toujours les mêmes trucs. Elle m'a vraiment ouvert le champ des possibles, on va dire. Et c'est surtout elle qui m'a dit, Lucie, ça serait bien que tu lises du roman ado, parce qu'en plus, t'es jeune, donc t'es aussi une force de vente.
C'est ça.
C'est-à-dire que si toi, tu vas voir les clients... Mais si tu vas voir les clients en leur disant, écoutez, moi, j'ai... à l'époque, j'avais quoi, 23 ans, quelque chose comme ça. Moi, à 23 ans, j'ai adoré ce livre. Offrez-le à votre nièce de 16-17 ans. Tu vois, il y a une résonance chez le client, quoi. Et moi, au début, j'étais, ah non, mais attends, tu vas te les garder, tes livres de vampires. Hein. Moi, ça m'intéresse absolument pas. C'est bon, les petites bluettes adolescentes, gna 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 gna, snobisme, plus. Elle m'a dit, alors tu vas bien te calmer et tu vas me lire ça, s'il te plaît. Et elle m'avait mis entre les mains un livre qui s'appelle Métaux, d'Yves Grevet, qui est une dystopie. Et je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre avec autant de plaisir, tu vois, avec ce côté... C'est un livre, il y a 3 tomes.
Ouais.
Et en fait, quand je finissais le premier tome, au beau milieu de la nuit, j'avais qu'une envie, c'est d'être le lendemain pour aller récupérer le deuxième tome. Et ça m'était pas arrivé depuis si longtemps, parce que je faisais la snob, mais en vrai, pendant mes études littéraires, mais j'aimais plus lire.
Ouais.
Je n'aimais plus lire, plus du tout. Donc ça m'a vachement fait renouer avec le plaisir de la lecture. Donc voilà, j'ai fait de la librairie. Ensuite, je suis allée en institution à la BNF, au Centre National du Livre pour la Jeunesse. Institution. Et j'ai fini par un stage en édition. Où j'aidais à la communication, à la promotion des livres.
Tu as fait plein de stages, quoi.
J'ai fait plein de stages dans des domaines très différents en me disant, bon, bah, je teste. Voilà, je teste des trucs et je verrai bien ce qui me plaît le plus.
C'était des stages de combien de temps environ ?
Bah, ça dépendait. Le tout premier au Salon du Livre, c'était le temps du salon, donc c'était une grosse semaine. Ensuite, la librairie, donc ouais, on était autour de 9 mois. Le Centre national du livre pour la jeunesse, c'était 39 jours parce qu'à partir de 40, il fallait me rémunérer. Donc bien tu sûr. Comprends, il fallait que ça soit un jour de moins.
Évidemment.
Et 6 mois pour les éditions Sarbacane. D'accord. Pour laquelle, donc, c'est, en fait, ça a été. Quand j'ai fini ce stage, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux bosser en édition. Parce qu'à ce moment-là, j'organisais des dédicaces avec les auteurs dans des librairies, j'organisais des expositions, j'envoyais, je manipulais des originaux d'éditeurs, des dessins absolument magnifiques, somptueux. Je les envoyais à des librairies. J'ai adoré en fait ce relationnel avec les professionnels. Et en sortant de là, je me suis dit, ok, bah, c'est ça que je veux faire. Bon. Le truc, c'est que j'ai fini mes études. Alors, je ne sais pas si tu as vécu ce moment de néant absolu où tu finis tes études et tu te dis... Ok, j'ai plus de rentrée scolaire, j'ai plus rien, j'ai pas de travail.
J'ai tout enchaîné, j'ai fait du droit, un an de droit. Après, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai fait mon école de stylisme et après j'ai commencé à travailler chez Mademoiselle. J'ai été prise chez Mademoiselle avant même d'avoir mon diplôme.
Okay. Donc j'ai ce qui était classique là-bas.
J'ai été prise genre en avril 2014. Je suis rentrée et Fabrice m'avait dit écoute, quand est-ce que tu finis tes études? J'ai fait, je passe mon oral de jury le 10 juin. Il fait ok, tu commences le 11, qui est le jour de mon anniversaire. Du coup, voilà. Ouais. Moi j'ai enchaîné. Après j'ai enchaîné les boulots. En fait j'ai fait que d'enchaîner dans ma vie les boulots. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de passage à vide pour l'instant. Pas beaucoup de repos parfois, mais.
J'ai pas de bois, mais.
Je touche ma calax.
Qui est fait avec du bois, apparemment. J'ai appris ça il y a pas longtemps.
Non, effectivement, j'ai pas eu de passage à vide, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ouais.
Et ben moi j'ai eu un passage à vide où je finis mon dernier stage et en plus. Bon, j'ai toujours été très, très dégourdie, tu vois.
Ça se voit avec tous les stages que tu as décrochés, etc.
J'ai vraiment essayé de maximiser au maximum, mes chances de connaître des gens, etc. Je travaillais bien, je savais que les gens appréciaient beaucoup mon travail. Donc,
puis même, tu avais l'intelligence déjà à cet âge-là du relationnel. Parce que moi, personnellement, c'est un truc dont je ne me suis pas rendu compte avant de rentrer dans la com, tu vois. Ça m'emmerdait, clairement. Tu vois. Enfin, ça m'emmerdait de ouf.
Moi, c'était assez naturel, en fait, parce que les gens étaient globalement gentils et j'avais envie d'être sympa avec eux.
Ouais, pour moi aussi, tu vois, j'ai toujours été une extravertie, mais ça m'emmerdait de faire du... J'étais en mode... C'est un peu comme dans les Marseillais, en mode moi je suis French et puis, je m'en fous si les gens ils m'aiment pas, moi soit tu m'aimes, soit tu me détestes.
Hein. Non, honnêtement, je cherchais pas forcément à me faire aimer, mais je pense que j'ai toujours été animée par un enthousiasme assez naturel pour les choses qui me fait toujours m'émerveiller devant des choses et les gens, je pense que tu comprenais que ça touchait les gens.
Ouais.
Voilà, je pense que c'est un truc qu'ils aiment vraiment bien. Du coup, après ça, je me dis, ok, what is life? J'ai pas de rentrée scolaire, je ne sais pas, j'envoie des CV, j'ai pas forcément de retour, je vais passer mon permis, c'est le moment, voilà. J'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis, et je me dis, bon, ok Lucie, il faut que tu fasses quelque chose là, il faut que tu continues à exister quelque part.
Toi, t'as besoin de projets aussi, hein, parce que c'est la preuve que t'as eu le passage vite, claque, permis tout de suite du coup. Claque.
Ouais, et puis en plus, je vivais assez mal le fait de rien avoir, alors qu'en vrai, j'ai pas travaillé pendant peut-être 3-4 mois.
Ouais, gros passage
à vide. Pas énorme, voilà.
Pas du tout, il y a des
Quand tu discutes avec les gens, tu vois que c'est plutôt un an, voire plus, où ils galèrent. Que moi, au bout de 3 mois, j'en pouvais plus, quoi.
Ouais, ça dépend des personnalités. Hein,
Donc voilà, je me suis dit, ok, c'est chaud, Lucie, parce que ton milieu, en fait, il y a de la concurrence, mine de rien. On est beaucoup de candidates pour peu d'élus.
Oui, pas d'appeler, ouais.
Donc il faut que tu continues à exister. Et moi, pendant mon stage aux éditions Sarbacane, je gérais pas mal des services de presse pour les blogueurs.
Est-ce que j'allais te demander si tu faisais tout ce qui était attaché de presse en édition t'aurais pas intéressé aussi? Ouais.
Du coup, je l'ai un peu fait. Ouais, je l'ai un peu fait chez Sarbacane. Et donc, je savais qu'en fait, il n'était pas trop difficile de recevoir des livres.
Ouais, des manuscrits.
Tant que t'étais. Non, vraiment des livres édités.
D'accord, ouais, pardon.
Gratuitement, tant que tu montrais que t'étais un peu dégourdi, que tu savais parler des livres, etc. Et une nuit, début d'année, donc je crois que c'était 2015, j'ai un espèce de flash dans ma tête. J'ai souvent des espèces d'épiphanies nocturnes. Et en fait, je savais que Mademoiselle, qui est donc un site que nous connaissons bien toutes les deux,
tout le temps,
j'avais vu passer des articles sur la littérature jeunesse. Chez Mademoiselle, soit les 5 livres de littérature jeunesse de machin. Et il y avait aussi Brune, qui est enfin pour une beauté héros qui était comment dire plus ou moins bénévole là-bas. Enfin, j'ai pas trop compris dans quelle mesure elle écrivait des articles, mais en tout cas elle faisait quelques chroniques de littérature jeunesse. Mais il y a très très longtemps, bien avant que moi je commence à me dire ok j'ai envie d'en parler sur Mademoiselle. Et en fait je me suis dit ok si elle a pu le faire sur Mademoiselle, pourquoi je le ferais pas. Et donc j'envoie un mail à Fabrice en me disant bonjour, voilà qui je suis diplômée machin truc spécialiste, j'ai envie de parler de littérature jeunesse sur ce site parce que j'ai envie de me montrer aux lectrices que c'est la littérature jeunesse, de leur montrer que moi j'ai 20 ans mais que j'adore ça, même en tant que jeune femme j'ai envie de transmettre cette passion, et en même temps j'ai aussi envie d'exister auprès des maisons d'édition pour recevoir des livres, pour me faire connaître en fait.
C'est vachement bien, t'as été hyper honnête et puis t'avais déjà ton truc, c'est ouf d'avoir autant son plan de carrière en tête.
Je suis un peu toujours comme ça, j'ai toujours deux ou trois coups d'avance.
Ouais, c'est vachement
j'avais
bien.
Déjà un article en fait, j'avais écrit un article et je l'avais directement envoyé. Donc vraiment...
un article, un podcast, une émission préenregistrée. J'ai inventé Twitch également parce que ça n'existait pas à l'époque, mais j'avais déjà l'idée.
Exactement. Non mais je mettais toujours toutes les chances de mon côté et je réfléchissais beaucoup à ce que je faisais quoi. Et truc assez miraculeux, donc j'envoie ce mail et encore une fois les planètes s'alignent et Fabrice me répond dans la demi-heure. Alors je pense que tu n'es pas sans savoir que c'est quand même assez rare qu'il réponde dans la demi-heure. Et là, tac, il me dit ah c'est lui-ci, oui ok. Alors par contre désolé mais j'aurais pas de budget pour ça, mais si tu veux utiliser la Mademoiselle comme carte de visite pour parler de livres et pour te faire ton réseau, il y a pas de souci, t'auras aucune obligation, tu fais des articles quand tu veux, go quoi. Putain. Ok. D'accord. On va faire ça, d'accord. Ça m'a toujours fascinée. Parfois, tu sais, je lance des bouteilles à la mer et en fait, il y a des gens qui la repêchent. Ouais. Et ça m'a toujours un peu choquée, quoi.
Oui, parce que c'est un truc où tu te dis, je la lance et puis on verra ce qui se passe, mais je pense qu'il se passera rien. Et puis.
Si, il y a bien quelqu'un qui lit ton petit mot à l'intérieur et qui fait, oui, bien sûr, vas-y, fais-le, quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire des articles donc, de façon bénévole pour Mademoiselle. Donc je le faisais de façon assez régulière. Je dois beaucoup à Mélissa, donc Mélissa qui était chargée des témoignages à l'époque, c'est elle qui s'occupait de mes articles.
Qu'on salue.
Et qu'on aime très fort Mélissa. Et en fait à chaque fois que je lui envoyais un article, j'avais toujours un retour hyper enthousiaste de sa part en disant ah c'est trop bien, il est trop bien ton article, le livre a l'air trop bien et tout.
C'est vraiment la plus chou du monde.
Ah ouais, et puis moi ça me motivait trop quoi. Enfin je voyais que ça lui plaisait au moins à elle, je voyais que
T'avais des bons retours sur le site.
Ouais, sur le site j'avais des bons retours. Sur Facebook, quand on partageait les articles, je voyais que certains articles ils marchaient vraiment, donc j'étais trop contente quoi. Donc tout 2015, j'écris quand même assez régulièrement des articles. J'avais fait plusieurs sélections de Noël, j'avais fait au moins 5 ou 6 sélections de Noël pour permettre aux lectrices de faire des cadeaux à leurs neveux, frères, sœurs, cousins, machin, tout ce que tu veux. Et en fait, pendant cette année 2015, donc j'étais bénévole pour Mademoiselle, donc c'était pas quelque chose de rémunérateur pour moi. Mais en parallèle, je me suis mise en freelance parce que mes premières opportunités professionnelles ont été en freelance. D'accord. Donc j'étais en fait attachée de presse justement pour des petites maisons d'édition. Donc toute l'année 2015, et c'est fin 2015 où en fait j'étais ok, je commence à avoir quand même pas mal d'activités freelance, ce qui me permet plus vraiment de faire des articles bénévoles pour Mademoiselle, mais ça m'embête un peu quand même d'arrêter d'écrire pour Mademoiselle. Donc là, je suis allée voir Fabrice.
Il est l'heure de casquer.
C'est ça. Je dis, bonjour Fabrice, est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît? Et je lui dis, écoute, moi, j'ai des activités, mais j'ai envie de continuer à écrire pour Mademoiselle. Est-ce que... moi, je suis freelance. Est-ce qu'il y a possibilité, du coup, de...
Envoyer des sesterces sonnantes à trébuchantes.
Exactement, de rendre l'argent, s'il te plaît. même si c'est en mi-temps, enfin, moi, il n'y a pas de souci. J'ai d'autres activités à côté. Je lui faisais son business plan. Hein. Je lui disais, je vois que vous avez des sponsors avec des livres. Moi, je peux vous aider à développer...
Oui, et puis à démarcher des maisons d'édition.
Exactement, les maisons d'édition, maintenant, elles me connaissent. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment parler de livres. Tu peux aussi capitaliser sur mon expertise pour développer ça, pour aussi avoir de l'argent pour ton site. Quoi. Et donc il a accepté, en fait. Il a dit, ok. Et donc, c'est à partir de là que je suis rentrée chez Mademoiselle pour vraiment être rédactrice... sur la littérature, même si voilà, bien sûr que ensuite tu faisais tout un tas d'articles différents, mais voilà, j'avais la rubrique littérature. Et pendant un temps, j'étais donc attachée de presse pour une maison d'édition jeunesse. Donc c'était un peu bizarre parce que j'étais des deux côtés de la force, tu vois.
C'est clair.
J'envoyais des livres à des journalistes et je recevais aussi des livres en tant que journaliste, donc c'était assez rigolo. Et c'est en 2016, après être partie au Siket Festival, donc rien à voir avec la littérature, mais j'ai pu partir à un festival de musique en Hongrie, dans le cadre de Mademoiselle. Et en revenant de ce festival où j'avais fait une vidéo, un petit reportage, Fabrice m'avait dit « Est-ce que tu veux venir à temps plein pour écrire sur les livres, mais aussi pour écrire sur la musique ?» Et là, j'étais « Ah !» Alors, c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout le plan de base. Je pensais pas être rédactrice pour un site comme ça, généraliste. Mais il y a un truc à faire. Il y a un truc qui me stimule. Il y a une expérience qui va sans doute m'enrichir et m'apprendre plein de choses différentes et me permettre aussi d'avoir un quotidien assez étonnant et très, très riche. Plein de surprises. Ok, bah banco, je laisse un peu de côté la partie... littérature et littérature jeunesse quoi. Et je deviens rédactrice slash journaliste, je sais pas trop comment je pouvais considérer à l'époque.
Et ça te manquait pas trop à ce moment-là, la littérature jeunesse? C'était pas mal. Combien de temps t'as fait ça?
Alors du coup, chez Mademoiselle, je suis partie en 2018 je crois, donc j'ai dû faire deux ans de salariat pur sans compter le freelance. Alors entre temps quand même, ce qui me rattachait à la littérature jeunesse, c'est que j'ai été appelée un jour par Chloé Marot, qui était journaliste notamment chez Cosette, qui s'occupait de la rubrique littérature jeunesse chez Cosette, qui m'a appelée en disant « Lucie, je voudrais te parler de quelque chose, d'un travail. » Ok, bah parle-moi d'un travail. Et en fait, elle me dit « Voilà, moi je travaille avec Denis Chessou sur l'émission La Tulle Montilou sur France Inter. Le truc, c'est que moi je vais arrêter. Donc, je cherche quelqu'un pour me remplacer et j'ai pensé à toi. »
Incroyable. Tu la connaissais?
Non.
C'est incroyable.
On se connaissait du milieu.
De consoeur, quoi. Voilà.
Mais on ne s'était jamais rencontrés, on ne s'était jamais parlé. Et elle me dit, j'ai pensé à toi. Notamment par rapport au fait que j'avais fait des vidéos avec Léa Bordier, justement, sur Mademoiselle, où j'avais fait des petites chroniques de littérature jeunesse. J'avais fait 5-6 vidéos comme ça, où je présentais des livres de littérature jeunesse. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand c'était sorti, il y avait des gens qui m'avaient dit, ça ressemble un peu à La Tulle, mon petit loup, sur France Inter.
Tu connaissais ?
Je connaissais, bien sûr, parce que c'est... En fait, La Tulle, mon petit loup, c'est une... une des très 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 rares émissions
sur la littérature jeunesse.
Sur la littérature jeunesse, il y a vraiment une énorme pénurie d'émissions, même si bon là ça commence un petit peu à se démocratiser, on va dire, mais ça a toujours été, enfin cette émission elle existe depuis plus de 30 ans. C'est vraiment
c'est l'institution.
Exactement. Donc ouais bien sûr je connaissais. Donc quand les gens me disaient ah ouais ça ressemble un petit peu à L'étude de mon petit loup, moi j'étais waouh, merci, enfin je suis très très honorée qu'on me dise ça. Et résultat, je me fais appeler par la collaboratrice de Denis. Qui me dit voilà, moi j'arrête, est-ce que tu veux me remplacer? Et moi je sais pas parce que moi j'ai un plein temps chez Mademoiselle et du coup je sais pas trop et puis machin et tout, j'avais 25 ans à l'époque. Je sais pas. Elle me dit non mais t'inquiète pas, enfin c'est une chronique par semaine, ça va te prendre quelques heures, vraiment relax quoi. Mais moi surtout ça me faisait trop peur, attendez, je suis pas journaliste les gars, moi j'ai pas fait une école de journalisme, je sais pas écrire pour France Inter quoi. Elle m'a dit ok, on se calme, si ça te tente tu me dis et je transmets tes coordonnées à Denis quoi. Donc j'ai fait ok c'est parti, vas-y transmets mes coordonnées à Denis. Et vraiment c'est une des embauches les plus surréalistes que j'ai eu de ma vie, parce que Denis, c'est pour ça que je l'adore et que je bosse avec lui depuis 4 ans, c'est qu'en fait il a une confiance mais énorme envers
c'est
les
ouf.
gens, énorme. C'est-à-dire qu'il m'a dit, si t'es ok, vas-y, banco. Moi, je dis, mais on se rencontre pas, j'envoie pas un essai. Il me fait, non, j'ai confiance.
Donc, incroyable.
La toute première chronique que je lui ai envoyée, c'est la toute première chronique qui a été diffusée sur La Tulle, mon petit loup.
Tu t'es sué des fesses.
J'ai sué ma mère. Je peux te dire que cette chronique, j'ai mis un temps, mais infini.
T'as dû t'entraîner plein de fois devant ta glace et tout.
Après moi j'écrivais juste et c'est lui qui a toujours lu, tu vois, moi j'ai jamais posé ma voix, j'ai toujours juste écrit, mais vraiment chaque mot était pesé au gramme près, tellement je me disais mais mon dieu, mais ça va passer sur France Inter, il y a genre 1 million d'auditeurs sur cette émission, c'est beaucoup trop, au secours. Et lui était très détendu, j'ai envoyé mon premier texte, il m'a dit j'en étais sûre, c'est super et tout.
Incroyable.
Incroyable. Et il a toujours été comme ça. Toujours été comme ça, Denis, je l'adore. Donc, au moment où quand même je commençais à être à temps plein chez Mademoiselle, j'avais encore la Tulu Montilou qui me raccrochait à la littérature jeunesse. Mais c'est vrai qu'en 2018, quand je commençais à me dire « Ok, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette opportunité », j'étais aussi à me dire « Ça me manque aussi, ce monde-là me manque, je m'en étais un petit peu éloignée ».
Sachant que c'était ton plan depuis le départ ou presque, quoi.
Ouais, mais après, tu vois, moi je me laisse aussi un petit peu porter, je me laisse porter par les opportunités.
Et il y a toujours un moment où ça te raccroche, ça te rattrape, quoi.
C'est ça. Puis bon, comme on se le disait, voilà, l'orientation au lycée, etc., on sait pas, c'est un peu nul, on sait pas tout ce qui existe. Donc moi, j'ai vite compris qu'en fait, il allait peut-être avoir d'autres métiers qui allaient me faire envie, etc. Donc oui, au moment où j'ai accepté Mademoiselle, où je me suis dit, bon, bah en vrai, je ne sais pas vers quoi ça va me mener, mais je vais voir. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, ah, les livres, ça me manque un peu, et les gens me manquent un peu, et c'est bien le journaliste, le côté rédactrice, mais c'est un univers dans lequel je me retrouvais pas toujours, tu vois, en termes de mentalité.
Ouais, puis toi, t'aimais bien aussi la relation un peu, comme on appelle dans mon milieu, B2B, avec les professionnels du secteur, les libraires, les journalistes, etc. C'est peut-être ça qui te manquait aussi.
Ouais, je pense que ce qui me manquait, c'était l'état d'esprit. Parce que, voilà, le milieu un peu journalistique parisien, c'est pas ma passion. Voilà, c'est pas ce que je préfère. J'aspirais aussi à plus de simplicité et aussi un peu plus de sens. Parce que même si j'ai toujours trouvé que... Enfin, moi, j'ai toujours eu besoin de sens dans ce que je faisais. Et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé pendant 2 ans chez Mademoiselle. Parce que quand t'allais là-bas, tu savais que t'avais une espèce de responsabilité vis-à-vis des lectrices. Mm-hmm. Moi, j'étais une grande lectrice de Mademoiselle avant d'y aller, comme beaucoup d'autres rédactrices. Donc, en allant là-bas, je voulais un petit peu rendre tout ce qu'on m'avait offert.
Ouais.
Donc, je voulais aussi inculquer des choses... Enfin, t'avais ce côté grande sœur chez Mademoiselle que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc, ça avait du sens pour moi, Mademoiselle, ça c'est sûr. Mais j'avais envie de récupérer ce sens aussi avec la jeunesse, avec le côté, mine de rien, les enfants, ils évoluent dans un monde un petit peu chelou. Donc j'ai un peu envie de revenir vers ça, pour revenir parler de livres, pour faire kiffer les gamins, pour leur apprendre des choses, pour les aider à mieux se sentir dans leur peau, etc. etc. Donc ouais, j'aspirais aussi à retourner vers ce côté presque un peu éducation, même si c'est un grand mot, dans la littérature jeunesse, en plus de renouer avec tout... tous ces contacts, quoi.
Et du coup, comment t'es retournée dans la littérature jeunesse ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel tournant tu as pris à ce moment-là, t'es partie de chez Mademoiselle ?
En fait, quand je suis partie de chez Mademoiselle, j'avais toujours mon statut d'auto-entrepreneur. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'était quand même assez facile de recommencer à travailler.
Même si leur sauf.
Donc j'avais ce côté, ok, je peux être freelance parce qu'en fait j'ai ce statut là et je pense qu'après 2018, on est quelle année, je suis pas très bonne en date, non c'est 2019
2021, oui mais moi aussi je suis en 2020.
J'ai dû envoyer des CV, des choses comme ça. En fait, je me rappelle très très vite avoir pu recommencer à travailler. Je me rappelle avoir pu bosser notamment pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Je leur ai écrit un dossier de presse. J'ai pu retourner
assez rapidement,
avoir des petites missions à droite à gauche. Et surtout, en fait, j'ai beaucoup de chance. En même temps, je sais que j'ai aussi semé mes petits cailloux, mais voilà, j'ai beaucoup de chance parce que les gens pensent très régulièrement à moi. Mais c'est vrai qu'il me semble que c'est... en 2018, j'ai reçu un petit message privé sur Facebook en me disant « Bonjour Lucie, il y a le Salon du Livre de Paris qui cherche une programmatrice pour la scène young adulte du salon, quoi. Est-ce que ça peut t'intéresser ?»
Incroyable.
Et moi, pareil, encore quelqu'un que je ne connaissais pas.
C'est assez ouf.
Enfin, que je connaissais de nom, voilà, parce qu'elle...
Ouais, mais c'est ta petite vitrine.
C'est la petite vitrine, exactement. Elle me dit « Voilà, il cherche quelqu'un, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Et moi, j'étais « Oh, super, encore un métier que j'ai jamais fait !» Super, j'adore.
Banco.
Donc j'ai envoyé un mail en disant voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça vous intéresse. Et en fait, ça a vraiment cliqué avec le directeur de la programmation. Donc j'ai pu être programmatrice très très rapidement après avoir quitté Mademoiselle. J'ai pu être programmatrice pour le salon du livre de Paris, pour la scène young adulte. Donc en gros, être programmatrice, pour expliquer un petit peu, c'est pendant toute la durée du salon. T'as les éditeurs qui exposent leurs livres et t'as des dédicaces d'auteurs, mais t'as aussi donc des scènes sur lesquelles il y a des rencontres, des discussions entre auteurs. Et donc c'est moi qui organisais toutes ces discussions, c'est moi qui disais, bon bah alors toi qui as écrit tel livre et toi qui as écrit tel livre, bah vous allez parler de telle thématique. Toi et toi, bah vous allez parler de tel truc, etc. Donc
c'est trop bien.
C'était vraiment hyper hyper cool. Et en plus, la personne, donc Gauthier Morax, le directeur de la programmation, il a vraiment été très sensible à ma vision en fait de cette littérature-là. Parce que moi je sortais de Mademoiselle, donc j'avais cette façon de penser avec le prisme sociétal en disant en fait les livres quand ils enfin les pour moi les livres ils sont toujours politiques, enfin tu vois, ils racontent toujours quelque chose du monde au moment où ils paraissent, et moi c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en valeur sur cette scène, d'autant plus que cette littérature pour les jeunes adultes, enfin c'est quand même c'est un tournant, enfin l'adolescence c'est un tournant, donc c'est le moment où les gamins ils vont se construire à travers des modèles qui sont ceux de la vraie vie mais qui sont aussi ceux de la littérature, et c'est là que en fait t'as tes premières claques aussi émotionnelles à base de oh mon Dieu, j'étais un peu troublée sur mon identité sexuelle, j'ai lu tel roman qui parle de tel truc, et oh punaise, en fait c'est moi, c'est ma vie, c'est ça, c'est ah mes parents ils pensent comme ça, ah mais je suis en train de lire ce livre et en fait je vois que je suis beaucoup plus réceptif à ce qui est raconté, cette façon de penser dans ce livre là donc ok, je comprends qu'en fait je suis en rupture avec toute mon éducation, enfin tu vois c'est une littérature de tournant, et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de mettre en avant sur cette scène, et du coup ça fait partie de mes plus grandes fiertés en fait dans mes expériences professionnelles, d'avoir pu je parlais de culture du viol par exemple, de Paris, enfin c'était
c'est hyper intéressant,
j'ai eu des moments des instants de grâce incroyables où Marie Aude Muraille, qui est quand même une des plus grandes autrices de littérature jeunesse,
bien sûr, mais évidemment,
a fait son coming out transgenre.
Ah je savais pas,
pendant
mais c'est fou.
Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là? Qu'est-ce que je suis en train de créer?
Tu vois, je savais pas.
Enfin, j'étais à terre quoi ce jour-là, tellement j'étais émue. Enfin, c'était magnifique. Enfin, c'était des moments incroyables. Donc, c'était des gros moments dans ma vie. Qui plus est, comme je te disais, pour un métier que je n'avais jamais fait, pour lequel je n'avais absolument pas fait les études. Enfin, juste j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a dit attends, je vais te montrer et on fait comme ça quoi. Donc, gros truc. Et pour en revenir quand même au côté journalisme pour enfants, et en plus qui correspond à mon actualité et à ce que je continue à faire aujourd'hui, bah pareil, en fait, c'est fin 2019. Non, c'est milieu d'année, je crois que c'est en mai que j'ai été contactée. J'ai été contactée par un certain Julien Dupuis qui m'envoie un mail, proposition pige télévisée ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Moi, je fais « Ouh, attention, la télé vient frapper à ma porte, j'adore !» Voilà, je m'appelle Julien Dupuis, je suis en train de monter un dossier pour France Télévisions, pour une émission sur la pop culture pour les enfants de 7-14 ans. Et je cherche une journaliste spécialisée en littérature jeunesse. On m'a parlé de vous. Merci. Merci à la personne qui a parlé de moi.
Qui es-tu? Je ne sais pas, mais merci.
Si, c'est l'ancienne attachée de presse de Bragelonne, mais que je connais très très peu. Hein. J'ai très peu échangé avec elle. Je pense que je l'ai connue à l'époque de Mademoiselle, mais je n'étais pas forcément très très liée à elle. Mais elle a parlé de moi, en tout cas, à ce Julien Dupuis, qui m'a dit, est-ce que ça vous intéresse d'embarquer pour cette aventure? Donc j'ai fait...
Allez.
Ok, c'est parti. Et le dossier est passé, ça s'est concrétisé. Donc j'ai commencé à travailler pour cette émission qui s'appelle Zinzin, qui est un magazine de la pop culture donc pour les 7-14 ans. Et donc l'émission a un petit peu changé en cours de route. Au début, c'était un tout en images, donc c'était pas présenté. C'était juste des rubriques différentes que sont la littérature, mais aussi les jeux vidéo, le cinéma. Okay. On parle d'une sortie. Voilà, dans chacune des rubriques. Et depuis le début d'année 2021, la formule a changé. C'est présenté par une animatrice qui s'appelle Marie Palot.
D'accord.
Qui est assez connue, notamment sur Twitch.
Oui, ça me parle.
Qui bosse aussi sur le stream. Et qui a tout un tas d'autres... qui est une machine de guerre. Je suis très admirative de Marie. Et qui donc est venue incarner cette émission. Où maintenant, ce sont des émissions thématiques. Chaque semaine, donc c'est une hebdo. Chaque semaine, on a une thématique. Que sont, par exemple, la mythologie, l'espace, la ferme, le western, d'accord, etc. Et donc, cette thématique irrigue plusieurs rubriques de l'émission.
D'accord, ouais.
Donc, que sont les jeux vidéo. Donc, on va avoir un jeu vidéo sur l'espace, une BD sur l'espace, un manga sur l'espace et un jeu de plateau sur l'espace, d'accord, pour les enfants. Et c'est vraiment trop bien. Mais je suis la première cliente de cette émission. D'accord. Elle est trop bien. Julien, il est trop fort. C'est un réalisateur, mais incroyable. Je suis trop admirative de ce gars. Et vraiment, si vous voulez vous marrer tout en apprenant des trucs. Ça que j'aime bien, c'est que c'est pour les enfants, mais en vrai...
Il y a un côté accessible aussi pour les adultes.
Ouais, on se permet de parler quand même de pas mal de choses. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un sujet sur Among Us, bon, qui est un jeu auquel les enfants jouent, mais aussi beaucoup les adultes.
Ah bah bien sûr, on l'a poncé au deuxième confinement, celui-là.
Exactement. Et tu vois, j'ai pu interviewer Magla et DLG, qui sont des streamers assez connus. Enfin, tu vois...
Ouais.
Il n'y a pas que les enfants qui peuvent découvrir des choses. Ouais. C'est vraiment une émission familiale, mais au sens très très large.
D'accord.
Sur la pop culture. Donc, quand tu t'intéresses un peu à la pop culture, tu as de quoi faire. Donc, voilà, j'ai pu commencer aussi à bosser pour cette émission et je continue encore de travailler là, au moins jusqu'à la fin de la saison. On va voir si il va y avoir une troisième saison. On croise les doigts.
Et du coup, ça saute ma question actuelle qui était que fais-tu en ce moment. Mais j'aimerais savoir aussi est-ce que la crise sanitaire a changé quelque chose pour toi dans ta façon de travailler, dans ta carrière, etc.
Moi, le premier confinement, il m'a mis un bon petit taquet dans la tronche.
Okay. Hein.
Je l'ai pas bien vécu, du tout, du tout, du tout. Bon, faut savoir aussi quand même qu'en 2020, je fais un burn-out. Mm. Donc, ça a été aussi un moment qui m'a pas mal secouée et c'est un truc contre lequel je me bats encore aujourd'hui. Hein. Enfin, voilà, quand tu fais un burn-out, t'as beau aller mieux. Tu sais qu'à tout moment, ça peut te reprendre à la gorge. Donc,
c'est une maladie de fond, hein, surtout. C'est...
Complètement. Donc il y a eu ça et donc j'ai fait ce burn-out et rapidement j'ai eu la crise sanitaire,
allez.
Confinement, etc. Et
ce qui n'a pas dû aider du tout.
Ce qui m'a fait quand même rebasculer assez rapidement. Parce que mon burn-out je l'ai fait en janvier 2020 pardon. J'ai réussi quand même
à
sortir la tête et confinement en mars. Donc pas fou. Et c'est vrai qu'au moment où il y a eu le premier confinement, moi j'avais qu'une envie, c'était de jouer à Animal Crossing en pyjama toute la journée chez moi.
Ça tombe bien.
J'avais pas du tout. Bah ça tombe bien, oui et non.
Ah, et parce que tu continues.
Parce qu'en fait, moi ça m'a pas tant. Ça m'a affecté professionnellement. Il y a eu des choses qui se sont arrêtées. Zinzin, ça s'est arrêté parce que. Enfin, on a quand même continué, même si c'était compliqué, parce que du coup, il fallait qu'on trouve des sujets, sachant que les cinémas, par exemple, étaient fermés. Enfin, voilà, fallait qu'on compose aussi.
Ouais. Il faut beaucoup plus s'adapter. Ouais.
C'était compliqué. Puis à un moment, en fait, je crois que c'est côté France Télé, ils ont dit non, en fait, on arrête. Je crois qu'il y a eu plus ou moins un droit de retrait de côté France Télé, donc ils ont dit ok, on suspend l'émission. Ouais. Mais moi, j'avais d'autres missions événementielles à ce moment-là. Je devais organiser un truc pour la rentrée. Et en fait, j'y arrivais pas, quoi. Enfin, j'étais pas bien. Donc, ça m'a un peu secoué. Et ouais, ça m'a beaucoup remise en question à base de, ok, c'est quoi la vie? Comment j'occupe mon existence sur Terre? J'étais une grosse machine de guerre en termes de travail. Je pouvais vraiment abattre beaucoup de travail.
Bah surtout qu'on va en parler dans ton déclic bonus, mais à ce moment-là, tu mixais aussi beaucoup. Parce que moi, je me souviens qu'on s'est... Bah, je crois que c'est la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça remonte. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était peu avant le confinement,
36-15,
au 36-15, où tu avais mixé. Et moi, j'étais partie tout bourrée à 5h du mat.
Exactement. Effectivement, j'avais des grosses, grosses, grosses semaines.
Ouais.
Parce
que t'enchaînais, en fait, le soir, tu DJais.
Tout à fait. Tout à fait. Je faisais la fête. Parfois plusieurs fois par semaine. Hein. Ouais. Je mixais parfois plusieurs fois par semaine, en plus d'avoir quand même pas mal d'activités à côté. Donc ouais, là, j'étais ok, c'est cool de travailler. Parce qu'en plus, c'est un peu ce qui est traître, entre guillemets, avec le côté métier-passion. C'est que je fais des choses qui me plaisent, je fais des choses qui me stimulent.
C'est pas t'arrêter.
En termes de créativité, etc., c'est des choses qui me faisaient du bien.
Mais ça reste du travail.
Et ça reste du travail.
Ça reste du travail, t'as quand même des rendus, t'as quand même des
obligations.
Exactement, voilà, des choses à rendre, tu peux pas faire tout ce que tu veux, quoi.
Ouais.
Tu travailles pour toi, certes, mais t'as quand même des prestataires qui attendent des rendus,
tout
etc.
Tout à fait. Ouais. Et j'étais pas très douée pour prendre du temps pour moi aussi, à l'époque. Donc c'est un peu ça qui m'a ouvert les écoutilles au moment du confinement, c'est que je me suis dit, ok, en fait, faut que je prenne soin de moi. Faut que je fasse des trucs pour moi, faut que je fasse des trucs gratuitement, tu vois. Faut pas que tu vois, aujourd'hui quand je lis un livre, bah je me dis ok, ce livre il est bien, du coup je vais pouvoir en faire un post Instagram, ou je vais pouvoir en faire une vidéo sur YouTube, ou je vais, tu vois. Il y a toujours une relation de, comment dire, d'obligation, enfin pas d'obligation, mais
il y a toujours un truc sous-jacent. Il y a toujours un truc sous-jacent de boulot, d'inspiration.
C'est ça. Il y a toujours un truc où il faut que je me serve de ce que je fais.
Ouais.
Et c'est vrai que la crise sanitaire.
De plaisir, quoi. Tu t'es pas, enfin si, t'as du plaisir, mais t'as pas
uniquement, c'est un plaisir opportuniste,
voilà, t'as pas uniquement du plaisir. Ouais,
exactement,
voilà,
Donc on va dire que la crise sanitaire, ça m'a fait me dire, en fait, ouais, j'ai juste envie de jouer à Animal Crossing parce que ça me fait kiffer de planter mes petits pommiers sur mon île et d'aller acheter.
Ah, des pommes, moi j'ai eu que des pêches, j'ai jamais eu de pommiers.
Bah ouais, mais tu vois, quand t'as ton île, tu sais pas quel fruit tu vas avoir. Donc après, tout l'enjeu est d'aller récupérer les fruits de tes potes sur
moi,
l'île.
Moi, j'ai été visiter aucune de toute façon à Animal Crossing. Là, je t'avoue que ça fait un an que j'y ai pas joué. Non, c'était pas un an, parce qu'il y a un an, c'était la crise sanitaire. On était en plein dans le confinement. Et,
mais quel bonheur, quel bonheur, ouais, Animal Crossing. Du
ils ont eu le meilleur lancement, eux.
Mais franchement, ça a été.
Ah, ils ont eu de la chatte, hein, franchement.
Ah là là là.
Au point
là
du timing, c'est très bien parce qu'en plus, c'est sorti le 20 mars, je crois.
Ouais, ouais, juste avant. Juste
tu me rappelles, j'avais précommandé. Je suis alors là.
Moi, je crois que c'était parce que t'as dit que tu l'avais précommandé et que j'arrêtais pas d'en entendre parler. J'ai fait. Je pense que ça va être bien, donc je vais l'acheter aussi. Et effectivement,
moi, j'avais jamais joué. Moi, c'était beaucoup Margot, quand Margot Palace, qu'on salue et qu'on embrasse. Mais effectivement, c'est elle qu'on avait parlé et qui jouait sur Nintendo DS. Et moi, je lui ai dit, bon, bah vas-y, ça a l'air mignon et tout. Go, quoi.
Pas pareil, je fais, bon, bah là, ça a l'air mignon, j'ai une Switch, go aussi, quoi. Et meilleur achat, quoi. Ouais. Donc, ouais, le confinement, ça m'a plutôt me fait me dire, bon, tu travailles beaucoup, en vrai, maintenant, détends-toi. Juste détends-toi. Donc j'ai arrêté d'émission, ce qui a été très nouveau aussi pour moi. Et en fait, c'est un des trucs très nouveaux là depuis 2020-2021, c'est que maintenant je refuse des opportunités qui sont parfois très intéressantes, mais je les refuse parce que je me dis soit je le sens pas, soit il y a un truc, tu vois, derrière, une petite voix. J'ai appris beaucoup à écouter la petite voix derrière moi qui me dit t'es sûre Lucie, parce qu'en vrai il y a un truc qui pue un peu là derrière. Voix que j'écoutais pas avant, me disant ah c'est bon, syndrome de l'imposteur. Maintenant j'ai compris que non, parfois, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Et surtout, j'apprends à dire stop.
Ouais.
Donc, c'est vraiment un truc qui... Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir des rentrées d'argent pendant le confinement, que ça a beaucoup affecté... Enfin, voilà. Moi, je me considère comme une privilégiée parce que j'ai jamais cessé de gagner de l'argent.
Ouais.
Jamais. J'ai jamais été dans un souci financier. Et en tant qu'indépendant, c'était quand même une chance énorme.
Luxueux, ouais, c'est clair.
Et moi, c'était plus le contraire, quoi. Moi, j'avais envie qu'on me laisse tranquille, en fait. J'avais vraiment envie de plus travailler.
D'être peinarde, ouais.
Ouais. Donc, la crise sanitaire, ça a été un gros choc. D'autant plus que je m'en suis rendu compte, et je me rends compte encore aujourd'hui, c'est que donc, cette partie DJing me servait de soupape de décompression. Ce qui me permettait, en fait, de faire la fête plusieurs fois par mois, quasiment une fois par semaine. Ça me permettait de lâcher aussi la pression.
Ouais, et puis en plus, t'avais ce côté obligation, c'est-à-dire que ça t'étais un peu obligé de vu que tu prenais des dates avec tes collègues là-dessus, t'étais obligé d'y aller. Donc, dans un sens, même si t'étais fatigué, comme t'avais un set, t'étais obligé d'y aller. Du coup, finalement, bah, tu décompressais quoi qu'il arrive.
C'est ça.
Parce que si jamais tu n'avais pas eu cette obligation d'aller mixer, peut-être que tu te serais dit non, ce soir je reste chez moi, je suis crevée, etc.
Ouais, complètement. Bah oui, je vais regarder The Voice. On est samedi soir. C'est parti. Ce qui était bien aussi, hein. Ce qui était bien aussi. Mais c'est vrai que je savais que ça allait me manquer de mixer parce que bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que en tant que personnalité très empathique, le fait de pouvoir faire autant plaisir aux gens et les faire danser, pour moi c'est un truc de fou. Donc c'est un truc qui me manque, mais j'avais pas anticipé le fait que ça me servait aussi de côté très libérateur. Je lâche le stress, j'oublie vraiment j'oublie ma semaine au moins le temps d'une soirée. Et je redémarre la semaine un peu fatiguée, certes, mais au moins avec le côté, ça va, j'ai décompressé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus ce côté décompression, donc c'est vrai que j'aspire un peu à une vie tranquille, quoi.
Ouais.
Je travaille tranquille, mais je vais pas courir après l'émission, je vais pas courir après le fait de travailler comme je le faisais avant. Je pense qu'aussi, c'est le cap des 30 ans hein, qui me fait me dire « Ok, c'est bon, Lucie, t'as donné. Pendant 10 ans, t'as fait des trucs gratos, etc. T'as beaucoup donné de ta personne pour pas beaucoup de sous, pour le SMIC, pour des piges mal payées, etc. Bon, allez, maintenant, tu récoltes un petit peu tout ce que tu as semé. Tu récoltes le fruit de ce que t'as semé. Et tu penses à toi. Et tu fais des trucs pour toi aussi. C'est pour ça que j'ai lancé une chaîne Twitch il y a pas très longtemps. C'était dans cette optique de... J'ai envie de faire des trucs cool, quoi.
Ouais, t'as envie de faire ce que t'as envie de faire.
Exactement.
Quoi,
ça, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de faire ce que j'avais envie de faire. Et je continue.
Mais d'ailleurs, comment t'envisages la suite de ta carrière maintenant ?
Ah, je sais pas. Moi, je vis tellement au jour le jour.
Ouais.
Et puis, en fait, depuis plusieurs années, j'ai cette chance d'être sans arrêt surprise, en fait. comme je t'ai dit, c'est beaucoup de gens qui viennent me chercher.
Bien sûr, ouais.
Donc je sais jamais de quoi l'avenir va être fait, ce qui est un peu flippant et très excitant en même temps. Je me dis, mais c'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite? Maintenant, j'ai la chance de me dire, je sais que là, on est en mai, déjà. Il va y avoir l'été qui va arriver. Et avant l'été, pour moi, c'était un peu stressant parce que, un peu comme quand j'ai fini mon dernier stage... Ce côté néant, toi, ouais. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que des gens vont me contacter? Maintenant, au point où j'en suis, je sais que... Ouais, il va se passer des choses, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont me contacter. Je sais que même s'il n'y a personne qui me contacte, si j'envoie 2-3 CV, à un moment, ça va... Enfin, à chaque fois que je lance quelques bouteilles à la mer, il y en a au moins une qui est récupérée et qui aboutit à quelque chose. Donc j'ai cette espèce de confort qui peut paraître un peu présomptueux, mais en fait, bon, je pense que c'est aussi 10 ans de travail qui font bien qu'aujourd'hui... Les gens viennent me chercher et sont curieux en fait de bosser avec moi.
Bien sûr.
Là, tu vois, parmi les derniers trucs dont je suis extrêmement fière, c'est que c'est le festival d'Angoulême qui m'a.
Ok, trop bien.
Donc festival international d'Angoulême qui est quand même un rendez-vous ultra important. Enfin, pour la BD, ouais. C'est un rendez-vous international qui m'a proposé de faire partie du jury de sélection pour le prix jeunesse du prix Angoulême. Je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc, les gens viennent me chercher pour des trucs quand même ultra prestigieux, quoi. Donc, je suis hyper touchée par ça et ça me conforte un peu dans l'idée que, ok, les gens apprécient mon travail, ce qui veut dire qu'ils vont me proposer des choses. Après, combien de temps je vais être freelance, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est une liberté qui est hyper importante pour moi. En ce moment, on verra, tu vois, le jour où j'ai des enfants, le jour où je vais acheter une maison, bon, peut-être que je vais aussi changer mes priorités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la liberté pour moi c'est essentiel. Je veux pouvoir me dire je vais organiser ma semaine comme ça, ça veut dire que lundi je vais pas travailler, mardi je vais faire ça, mercredi je vais pouvoir aller chez le médecin, jeudi à 14h je vais faire mes courses parce que je sais qu'il y a personne à cette heure-là sauf les petits vieux et je serai tranquille. Voilà, moi, c'est comme ça que je conçois la vie en ce moment. La liberté, quoi.
Ouais, bien sûr.
Travailler, bien sûr. Enfin, faire des choses qui me
passionnent. Oui, mais faire ton propre emploi du temps. Si tu as envie de bosser à 3h du mat', tu le fais. Si tu as envie de prendre ton jeudi après-midi, tu le fais, quoi.
Exactement. Aujourd'hui, j'ai plus envie de... J'ai pas envie que ma vie soit le travail, quoi.
Ouais.
Même si c'est une partie très, très importante et que je suis quand même un peu carriériste, en mine de rien. Je veux plus me dire que ma vie va être uniquement autour du travail.
Ouais.
Même si voilà, je travaillerai toujours beaucoup et toujours pour des choses qui ont du sens pour moi. C'est le truc qui est sûr. Après, je ne sais pas. Comme je te disais, voilà, au moins un des objectifs de ma trentaine, ça va être, j'aimerais bien écrire quelque chose. Enfin, j'ai déjà écrit quelque chose, mais voilà, faut que j'affine ça.
Formaliser un petit peu plus.
Voilà, mais voilà, je ne sais pas. On verra ce que la vie me réserve.
Je te propose de rester là-dessus parce que c'est une note hyper positive. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lucie. On se retrouve tout de suite pour ton second déclic sur le DJing.
Avec joie.
Et en attendant, pour ceux qui le veulent, qui veulent y aller dès maintenant, et surtout puisqu'on va avoir une petite, soit une semaine, soit deux semaines d'intervalle entre tes deux déclics, je vous invite tous à aller suivre Lucie sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, sur sa chaîne Twitch.
Oui.
C'est dur à dire.
Sa chaîne Twitch. Je vais chez ce cher Serge, Juliette.
Non mais tu sais, j'ai fait du théâtre, mais ça a été compliqué. Moi, je parle trop vite. Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller te suivre sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram et tout ça. Et puis, je te dis à tout de suite.
Et
je dis aux auditeurs à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le premier déclic de Lucie Cosmala. On se retrouve la semaine prochaine pour son épisode de la chanson et dans deux semaines pour parler de son second déclic dans lequel on découvrira sa vie de DJette. En attendant, et si cet épisode vous a plu, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux @18h17production, mais également à vous abonner au déclic sur votre appli de podcast préféré et à nous mettre 5 étoiles. Découvrez aussi nos autres podcasts, la chanson donc, l'apéro et le jeu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la chanson toujours avec Lucie Cosmala et d'ici là, portez-vous bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer.
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.